Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elles traversaient l'enfer, les violences que lui a infligées son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Décidément, pour les violences sexistes et sexuelles, ces derniers jours sont riches en enseignements. Hier, on évoquait la Ligue du LOL et ses ressorts. Aujourd'hui, on va remonter le fil d'une autre affaire éloquente, qui s'est en partie jouée tout récemment, l'affaire Denis Baupin, l'ex-député écologiste, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, dont les agissements et le harcèlement sexuel étaient au cœur du procès qu'il avait intenté à France Inter et Mediapart et qui s'est tenu du 4 au 8 février dernier. Un procès qui fera date et que nous voulions vous faire revivre. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Avant toute chose, petit rappel des faits, histoire de ne pas être perdu si vous n'avez rien suivi de cette affaire. Elle a éclaté le 9 mai 2016, lorsque France Inter et Mediapart donc publient conjointement une enquête sur Denis Baupin, dans laquelle quatre femmes l'accusent d'actes de harcèlement et d'agression sexuelle entre 1998 et 2014. Il s'agit de la députée écologiste Isabelle Attard, de la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau, de l'adjointe chargée de la jeunesse à la mairie du Mans Hélène Debost et de la conseillère régionale d'Île-de-France Annie Lamère. Denis Baupin nie les accusations, il démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée, il conserve son mandat de député et il fait alors l'objet d'une enquête. De nouveaux témoignages sont publiés, quatre femmes portent plainte contre lui, Isabelle Attard, Hélène Debost, Sandrine Rousseau et Véronique Haché, une ancienne conseillère de Bertrand Delanoë et directrice d'Autolib. Leur plainte est classée sans suite car les faits sont prescrits. Le parquet tient cependant à souligner que leurs accusations ont pu être corroborées et que certains faits auraient, en temps voulu, pu faire l'objet de poursuites. Denis Baupin porte alors plainte à son tour contre France Inter et Mediapart pour diffamation. C'est ce qui nous emmène au fameux procès dont on va causer tout de suite. Je dis « on » car je ne suis pas tout seul. Ma camarade Victoire Toyon, des couilles sur la table, est à mes côtés. Bonjour Victoire.
Bonjour Thomas.
C'est ensemble que nous avons reçu Marie Barbier. Elle est journaliste pour l'Humanité. Elle suit l'actualité judiciaire. Elle a couvert le procès Baupin, notamment en nous le faisant vivre en direct sur Twitter, étape après étape. Elle est venue en parler avec nous dans nos studios.
J'ai commencé par lui poser deux questions. D'abord, pourquoi Denis Baupin n'était pas venu au procès ? Et ensuite, pourquoi, en plus des deux médias poursuivis, se retrouvaient sur le banc des prévenus six femmes victimes de ces agissements ?
Alors là, sur la première question, pourquoi Denis Baupin n'est pas là, je pense qu'en fait, c'est assez incompréhensible de savoir pourquoi il est allé jusqu'au bout. En fait, et personne n'arrive à comprendre pourquoi, à un moment donné, cet homme qui est un homme politique n'a pas eu le nez assez fin pour comprendre que ce procès était une aberration. Allait complètement se retourner contre lui. Voilà. Alors sans doute que ça dit d'ailleurs assez long sur le sentiment d'impunité qu'il habite, parce que je pense qu'il a jamais compris qu'en fait la société avait bougé autour de lui, que MeToo était passé, que tout ça était passé, et que maintenant ça allait se passer autrement, quoi. Ce procès aurait un autre écho. Et sur la deuxième question, en fait, alors ça a été un élément un peu technique du procès, mais qui est peut-être un peu intéressant, effectivement, c'est que Maître Pierre, son avocat, a dit, mais nous, on ne voulait pas du tout que ces femmes soient là, nous, on a porté plainte contre les journalistes, et ce n'est pas de notre faute si elles sont là. Sauf qu'en fait, quand on regarde la procédure qu'ils ont choisie, il aurait pu faire une citation directe au parquet. Auquel cas, les directeurs de la publication, de Mediapart et France Inter, auraient été poursuivis seuls. Sauf qu'il choisit, en fait, de faire une plainte avec constitution de partie civile. Et il choisit, alors on a 45 passages poursuivis dans les articles, donc énormément de passages, c'est-à-dire qu'il dit ça c'est faux, j'attaque pour diffamation, en sachant pertinemment que les passages qu'il cite, c'est les agressions racontées par les femmes. Et que du coup, ces femmes vont être citées au témoin, et vont être au procès, pardon, et donc vont être convoquées par le juge d'instruction et mises en examen également. Donc c'est pour ça qu'il a été repris beaucoup dans les plaidoiries de la défense pour dire, vous pouvez pas dire que vous vouliez pas que ces femmes soient là. En fait, il savait pertinemment, oui, par la procédure judiciaire qu'il a choisie, que ces femmes seraient du coup mises en accusation.
On va peut-être suivre la...
La chronologie
de ce procès, parce que donc vous décidez, ça s'est imposé il y a quelques années, comme journaliste, de live-tweeter ce procès, c'est-à-dire de raconter quasiment minute par minute ce qui se passe en live sur Twitter. J'ai une question technique toute bête, vous faites comment en fait? Vous avez votre ordinateur, vous avez votre portable?
Alors, l'envers du décor, c'est que mon ordi m'a lâché au début de la semaine. Donc non, je suis sur mon portable.
Ah oui, donc vous étiez sur votre portable avec vos pouces à taper tout ce qui était en train de se dire. Mmh. Parce que ça va très très vite, il y a des centaines et des centaines de tweets.
Je ne sais pas compter, il faudrait que je les compte.
Publiés. Je propose qu'on commence avec le tout début de ce procès. Déjà, ça commence très fort parce que Maître Pierra, qui est l'avocat de Denis Baupin, traite la journaliste de Mediapart, Léa Nigredou, de mormone en chef de cette tribu.
Oui, alors Pierra, il a choisi une défense, enfin pas une défense, pardon, je me trompe parce que du coup tout est inversé, oui. Il est parti civil, mais il a choisi d'attaquer très très personnellement toutes les personnes qui étaient là et d'être très agressif. Donc ça a été le leitmotiv tout le long du procès, c'est-à-dire qu'il a en permanence dit que ces femmes mentaient, en permanence dit que ces journalistes, il les a traités de Tintin et Rouletabille, il a dit qu'ils faisaient pas du travail sérieux, que c'était aberrant ce qu'avait TV. Et ce qui est très très intéressant d'ailleurs, et ça on en a pas beaucoup parlé peut-être, c'est que du coup les journalistes ont été évidemment entendus à la barre, ils ont déposé et ils ont raconté en fait le processus de cette enquête. Et qui est incroyable parce que c'est une vraie leçon de journalisme en fait. Ils ont passé des mois et des mois à entendre. Je crois qu'il y a plus de 61 personnes qui ont été entendues, qui ont été interviewées par eux, à recouper, tout ça. Donc c'était assez chouette d'entendre ça.
Là, ce qu'on voit, c'est que les enquêtes qui sortent sur MeToo, les enquêtes dans Mediapart, donc sur Denis Baupin, mais aussi sur d'autres affaires, ils le font pas sur la base de deux ou trois témoignages qu'ils récoltent, quoi. C'est très très solide en fait, ces enquêtes journalistiques.
Ils en ont énormément. Il y a le premier article qui sort en mai 2016, là, le 9 mai 2016, de Mediapart et France Inter, il y a 8 femmes qui témoignent. Et il y en a, en fait, on apprend après, du coup, pendant l'audience, qu'il y en a eu d'autres qui ne l'ont pas cité. Par exemple, Cécile Duflo,
oui,
qui est mise à la barre.
Et qui leur avait dit,
et qui leur avait dit de ne pas en parler, ils ne l'ont pas fait. Oui. Donc il y a d'autres femmes aussi qui ont témoigné. Moi, pendant l'audience, par ailleurs, j'ai reçu des messages privés sur Twitter de femmes qui me disaient « Je suis une victime de Baupin, merci pour ce que vous faites ». Donc il y en a sans doute d'autres, hein.
Quand Sandrine Rousseau témoigne, il y a plein de choses qui sont très très frappantes dans son témoignage. Par exemple, elle aussi, elle dit qu'elle avait peur d'en parler et elle dit, quand on arrive à Europe Écologie Les Verts, on est dragué. Elle dit, moi j'essayais de ne pas paraître trop froide ni de passer pour l'hystérique de service. Ça, c'est souvent revenu dans les témoignages des femmes que vous avez relayées. La peur de ne pas avoir le comportement adéquat, l'envie de rester polie aussi. Il y en a une qui dit ça, qui dit « ma mère m'a appris à rester polie ». C'est-à-dire que c'est un procès aussi qui fait apparaître l'éducation qu'ont reçue les femmes et à quel point ça les rend vulnérables en fait, au harcèlement, aux violences sexuelles, etc.
Oui, c'est Isabelle Attard qui a dit ça, c'était assez fou parce qu'elle en fait, elle dit, dans sa même déposition, elle dit ma mère m'a toujours dit de dire non merci. Et donc à Baupin, en fait, il la harcèle par SMS, il lui envoie, on les a entendus, les textos, mais c'est sidérant, des centaines et des centaines de messages sur elle, sur la façon dont elle croise ses jambes à l'Assemblée, tout est décrypté par lui. Et en fait, elle n'ose pas lui dire arrête, quoi, c'est stop. Et donc, très poliment, non, mais voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle termine sa déposition devant le tribunal en disant je voudrais dire merci à Denis Baupin parce qu'il nous permet d'être là aujourd'hui. Mais c'est dingue parce qu'en fait,
oui,
encore
là,
une fois, même là, elle le remercie encore, elle est encore polie, effectivement, ça en dit long sur l'éducation, sur la transmission de la servitude, quand même, des femmes.
Puis il y a un effet de refoulement qui est assez fou. Il y a plusieurs témoins qui expliquent ça, qui avaient repoussé complètement les souvenirs de ces agressions et qui sont ressortis d'un coup aussi quand les premiers témoignages ont commencé à affluer. Il y a une des témoins, notamment, qui dit qu'elle ne pensait pas que ça avait eu autant d'importance dans sa vie, cette agression, et qu'elle en a pris compte, qu'elle a pris la mesure de la chose quand l'affaire a commencé à éclater.
Oui, et c'est sans doute ça qui a fait de ce procès un moment assez hors du commun, parce qu'il y avait une émotion extrêmement forte, en fait. Ce que ces femmes parlent en public et racontent ça, et je pense qu'elles-mêmes, elles étaient très très émue de l'importance que ces faits avaient eu dans leur vie. Sandrine Rousseau, elle l'a raconté en pleurs, que ça c'était un moment hyper fort aussi, quoi, quand elle raconte que, en fait, 3 semaines avant que l'article sorte dans Mediapart et France Inter, elle est au tribunal pour divorcer de son mari et qu'il lui dit on est là à cause de lui.
Oui.
Et ça, elle dit, on n'en avait jamais parlé, on n'avait jamais dit que c'était cause de lui et tout ça. Mais...
Et elle dit, mais moi, je n'avais pas du tout pris conscience de ça, en fait, de l'importance que ça avait pris dans ma vie. Et elle a cette belle formule, elle dit, on ne touche pas impunément au corps des femmes, ça a des conséquences. Toujours, quoi.
Ce qui rend d'autant plus insupportable, enfin, bon, moi, je lis ça avec un œil de journaliste, mais aussi de féministe, la remarque d'Emmanuel Pierrat, qui a l'air complètement à côté de la plaque, et quand il dit « on n'est quand même pas dans une manufacture de Roubaix ». Comme si, donc en faisant référence à un temps qui serait révolu du 19e siècle, où c'est le patron qui harcelait, agressait et violait les ouvrières de sa filature, mais... En fait, il a rien compris, quoi, la façon dont ça... Ou il veut pas comprendre la façon dont ça se structure encore, les rapports de pouvoir.
Il veut pas comprendre, je crois. Mais déjà, quel mépris de classe, quand même.
Oui, enfin, au passage.
Et puis, finalement, quelle incompréhension, quoi. Il l'a redit dans sa plaidoirie à plusieurs reprises. Ce sont des femmes éduquées, elles savaient exactement. Elles pouvaient très bien mettre des qualifications pénales sur ce qu'elles avaient vécu. Parce qu'il comprend pas, en fait, que, par exemple, Sandrine Rousseau dise en fait, j'ai pas compris que c'était une agression sexuelle. Ça, il arrive pas à comprendre, quoi. Que c'est quelque chose... Et oui, même les féministes, même les femmes... les plus éduqués, qu'on fait des études et tout, bah oui, c'est parfois difficile de mettre des mots sur ce qui leur arrive, quoi. Donc évidemment, quoi.
Le 3e jour du procès, c'est donc le jeudi. Là, il y a un témoignage qui va encore bouleverser tout le monde, c'est celui de Cécile Duflot,
ouais.
Qui n'est pas accusée, mais qui décide de venir témoigner.
Elle l'avait promis, ouais, c'est ce qu'elle a dit, raconté. Elle avait promis à Sandrine Rousseau qu'elle viendrait, ouais.
Comment est-ce qu'elle est appelée à la barre? Qui est-ce qui lui demande de témoigner dans l'affaire?
C'est les prévenus. C'est Sandrine Rousseau qui lui demande de venir. Et elle le fait parce qu'elle dit « je lui ai promis, je n'ai qu'une parole, donc je le fais ». Et elle, alors elle aussi, là il y a le langage des corps qui est intéressant. Elle parle très très vite, elle est très stressée. C'est sans doute très 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 compliqué pour elle, qui est une femme publique, de venir là raconter ça. Et c'est ça qui est d'autant plus fort. Je pense c'est une ancienne ministre quand même qui raconte ça. Et voilà. Voilà, qui raconte donc, alors, je ne sais pas si on peut le qualifier pénalement, mais une tentative ou une agression sexuelle, en tout cas, qui s'est passée à São Paulo, à São Paulo, au Brésil, en 2008. Et elle le raconte, effectivement, très, très, très émue. Et ça, c'est à chaque fois la même chose, c'est que ces femmes, le fait que... Alors elle, pour le coup, on peut parler de parole libérée, parce qu'elle n'en a jamais parlé. C'est la première fois qu'elle l'exprime en public. Donc voilà, elle lâche tout, quoi.
Et elle dit même qu'elle dit des choses qu'elle n'avait pas prévues de dire,
ouais.
Parce qu'elle raconte des détails, en fait, de comment ça s'est passé, qu'elle était enceinte, qu'elle venait d'accoucher, elle était en train de tirer son lait, enfin, il y a plein de détails comme ça.
Encore la vulnérabilité. Ouais, elle est. Alors ça, pour toutes les femmes qui ont allaité, on s'y voit, quoi. Parce qu'en fait, elle vient de laisser son bébé qu'à quelques mois à Paris pour la première fois, pour partir à ce congrès écologiste au Brésil. Et en fait, elle a décidé de tirer son lait toutes les 4 heures. Donc elle est avec son tire-lait dans sa chambre d'hôtel. Et en fait, elle raconte que quand il tape à la porte, elle rabat son t-shirt, mais qu'elle est encore en train de tirer son lait, elle a son tire-lait dans une main. Et que le stress de ce qui se passe, de cette agression, donc parce qu'il arrive, il lui dit « laisse-toi faire, je sais que t'en as envie », il commence à la caresser, et elle le vire en fait de la chambre d'hôtel, elle le pousse, elle lui donne un coup de pied, elle le pousse. Et elle dit que le stress fait couler son lait. Et ce détail, on dit tellement long, quoi.
Et elle dit aussi qu'elle n'en parle pas parce qu'à l'époque, et ça on peut aussi s'interroger sur le choix lui de ses victimes, c'est qu'en fait ils sont opposants politiques à l'époque. Donc elle dit « j'aurais jamais pu raconter ça parce que tout le monde aurait cru que c'était un coup que je lui faisais pour gagner la bataille en fait ».
Elle dit qu'elle était coincée, ouais. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que déjà, on voit que toutes les femmes sont concernées. C'est-à-dire que même les responsables, les chefs de parti, il y a des chefs de parti à l'époque, quand même, sont concernés par ça et ne parlent pas. Et effectivement, elle se sent coincée. Elle dit qu'elle ne peut pas. Alors, en plus, on est en 2008, hein. Faut imaginer, effectivement, à l'époque, ce que ça aurait été de parler. Est-ce qu'elle aurait été entendue, ça? Je suis pas sûre.
Pour en revenir à Cécile Duflot, un élément très intéressant dans son témoignage, c'est aussi ça participe de l'impunité, sans doute du sentiment d'impunité de Denis Baupin, c'est qu'elle a, elle a pas empêché les femmes de parler, mais elle a dit qu'il fallait pas parler à l'époque. Elle dit ça faisait partie de sa culture politique, que la lutte passait avant, on va dire, les luttes féministes, la lutte écologique passait avant, et que quelque part il fallait préserver la famille écologiste et donc ne pas raconter ces histoires-là. C'est assez saisissant ce qu'elle raconte aussi.
Ouais, l'intérêt du parti passe avant tout, et effectivement, elle a découragé. Alors ça, c'est aussi, elle s'en veut beaucoup, quoi. Elle dit.
Et elle a eu le courage d'en parler.
Ouais,
à l'audience,
ouais, tout à fait. Ouais. Elle dit qu'elle était capable de dire des phrases comme bon, ça va, si tu viens me dire qu'on t'a demandé de sucer des mecs, ça nous arrive tous les jours, c'est bon.
Donc. Où elle dit Denis Baupin, j'avais cette plaisanterie à propos de lui. C'est le genre de mec avec qui c'est moins fatigant de coucher que de résister.
Ouais, exactement. Ouais. Donc c'était, mais elle le dit aujourd'hui très, encore une fois, très émue et très, voilà, critique d'elle-même, quoi, en disant j'étais capable de dire des phrases comme ça, quoi. Et sans doute que, et c'est peut-être pour ça que ce procès fera date, en tout cas j'espère, c'est que déjà ça a brisé une omerta dans les partis politiques, et sans doute que maintenant on dira, enfin, ces femmes parleront et se diront que c'est pas l'intérêt du parti avant et qu'on peut dire des choses comme ça sans pour autant faire tomber son parti politique ou son syndicat. Ou...
Mais pour ça, il faut des alliés à l'intérieur du parti, notamment des alliés hommes. Et la parole des hommes aussi a été très intéressante dans ce procès. Notamment donc Stéphane Cid-Bon-Gomez, qui était le bras droit de Cécile Duflot, qui est rentré très tôt au parti à l'âge de 14 ans. Et lui, il dit qu'il savait. Que c'était un secret de polichinelle. Et il dit, nous les hommes, combien de fois on est lâche, combien de fois on s'abrite, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Il y a aussi des actes de contrition, en fait, des hommes qui défilent à la barre et qui expliquent qu'ils savaient et qu'ils n'ont rien fait ou qu'ils n'ont rien dit et qu'aujourd'hui ça ne se passerait plus comme ça. Ça, c'était un moment fort aussi du procès.
C'était très fort, ouais. Elle est belle cette formule en plus, je trouve que c'est très beau ce qu'il dit. Quoi. Et il dit qu'il savait, ouais, que Cécile Duflot s'était confiée à lui. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'elle se confie et c'est la même chose pour Alexis Brault à qui Sandrine Rousseau s'est confiée. Un autre homme qui est venu témoigner à barre, et les deux disent elle nous avait fait promettre de pas en parler, donc on n'en a pas parlé, et ils s'en veulent tellement aujourd'hui, ils s'en veulent énormément. Mais ce qui est fort, c'est ça, c'est qu'ils disent mais aujourd'hui ce serait plus pareil, on serait plus les alliés de ça, donc ça c'est très très fort, quoi. Et Louis Plenel a eu une belle formule aussi, il dit c'est pas les hommes contre les femmes, c'est nous tous, quoi. Comment est-ce qu'on fait avancer tout ça?
Le même jour, donc il y a les hommes, il y a Cécile Duflot, ensuite il y a les hommes qui parlent, ensuite il y a l'épouse de Denis Baupin, Emmanuelle Cosse. Et là, on se dit, c'est terrible, c'est-à-dire qu'ils l'ont... Donc elle aussi, elle n'était pas obligée de venir, mais en fait, Denis Baupin n'est pas présent, mais son épouse est présente. Et c'est elle qui invoque l'argument de la séduction. Elle dit, c'est un homme qui aime la séduction, il aime avoir des relations avec les femmes, j'étais au courant. Et comment la salle réagit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là?
Je pense que tout le monde est extrêmement gêné parce que, enfin, c'est gênant, quoi. C'est très gênant, en fait. Lui, il est pas là, quand même. Il est pas là. Il envoie sa femme au front, quoi. C'est sidérant de l'acheter, quoi. C'est incroyable. Alors sa femme, son ex-femme, la mère. Enfin, il y a trois femmes comme ça qui sont venues le soutenir. Bon, à un moment donné, ça va, quoi. Et évidemment que, enfin, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, Emmanuelle Cosse, quoi? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'est la mère de ses enfants, elle est mariée avec lui. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être refuser de venir témoigner, je sais pas. Après, je pense qu'elle est persuadée de l'innocence de son mari, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Voilà, elle est sur la question du libertinage, effectivement. Elle dit, je sais que c'était un dragueur, je sais que j'ai épousé. Je sais pas si c'est possible pour une femme de venir à la barre en disant, je sais que mon mari est un agresseur sexuel et un harceleur, et voilà, je pense que c'est pas possible, quoi. Tout s'effondre pour elle, donc, évidemment.
Enfin, si l'épouse de Harvey Weinstein, je crois, a fini par divorcer en se disant que son mari était un agresseur sexuel, mais sinon c'est très rare, en fait. Enfin, Anne Sinclair est restée
avec. Ben voilà, on a, évidemment, on pense à Anne Sinclair. Enfin, c'est, voilà, il y a un conflit de loyauté qui est énorme, et après, c'est un des avocats, Maître Moyard, l'avocat Sandrine Rousseau, qui a dit, mais on était malheureux comme les blés de la voir là, et de devoir la questionner là-dessus, évidemment, quoi. C'est évidemment triste, quoi.
On arrive au quatrième jour de procès, donc là c'est le jour où on n'entend plus les témoins, mais c'est le jour des plaidoiries. Celle d'Emmanuel Plera, vous l'avez dit, va durer 3 heures. C'est très long, non, pour une
plaidoirie ? C'est très très long, c'est très très long, oui.
Et lui, il plaide sans arrêt les jeux de séduction. Donc on revient avec cet argument de la séduction, du libertinage, de les femmes ont mal compris, etc. Et ça... Ça, c'est invoqué sans arrêt en France, quoi, avec l'idée que les femmes sont stupides, elles comprennent pas la différence entre séduction, elles confondent séduction et harcèlement, et en fait, elles sont susceptibles et elles sont un peu d'accord pour participer parce que si elles étaient pas d'accord, elles auraient dit non, or elles l'ont pas fait, etc. Enfin, cet argument de la séduction, il a quand même bon dos, quoi. Il est quand même, il a aussi été utilisé dans l'autre procès que vous avez couvert pour. Le procès du viol, quoi.
Oui, bah c'est, enfin, en plus, c'est surtout extrêmement fou de dire ça, parce que, c'est, encore une fois, c'est la question du consentement. La drague, évidemment, on drague. Mais si la personne, elle n'a pas envie d'être draguée, ben non, oui, c'est du harcèlement. Enfin, c'est clair. Sandrine Rousseau, elle raconte que Denis Baupin, il la prend dans un tiroir, un couloir, par surprise, et il lui plaque les mains contre les seins, et voilà. Et ben, évidemment que c'est une agression. Enfin, où est le libertinage, où est la drague? À partir du moment où les femmes veulent pas, eh ben, elles veulent pas, c'est tout. Alors oui, il faut rappeler des évidences comme ça. Peut-être que ce genre de procès permet de les rappeler, mais oui, voilà, quand une femme dit non, c'est non.
Il y a eu, après la plaidoirie de Maître Pirat, toutes les plaidoiries des autres avocats, et là, ils sont tous plus ou moins allés dans le même sens, celui de souligner à quel point le procès aura au moins servi à faire entendre la parole des femmes.
Alors, je me permets, juste avant, il y avait les réquisitions. C'était un moment hyper important. Ça a été très court.
Oui.
Ouais, ça a été très court, cinglant. Mais c'était très, très important parce qu'elle représente le ministère public. Donc, ce qu'elle demande au tribunal est important. Et elle demande la relaxe. Et elle dit voilà, qu'elle croit toutes ces femmes. Ça a duré, je pense, 20 minutes, une demi-heure, ces réquisitions. Mais déjà, elle commence en saluant le courage des femmes qui sont là aujourd'hui et en disant, en creux, vous lirez l'absence du plaignant. Première chose. Et après, elle prend toutes les femmes une par une, elle dit voilà, ce qu'elle dit est vrai. Oui, et les journalistes, ils ont fait un travail sérieux, ils ont mené une enquête sérieuse, donc ils n'ont pas à être mis en cause, etc. Et elle termine en disant que ce procès a mis en exergue l'impérieuse nécessité de briser le silence. Et c'était très fort parce que je crois que toutes ces femmes, elles étaient très très émues d'entendre ça, parce que c'est quand même du coup voilà, une parole, leur parole qui est entendue, le fait qu'elles soient victimes qui est reconnue, donc ça c'est voilà, très, très important, je pense, comme moment du procès aussi. Et ensuite, sur les plaidoiries de la défense, bon, alors ça, c'est le moment forcément où c'est un très, très beau moment, quoi, parce qu'il y a des grands avocats qui ont plaidé. C'était rigolo, je ne l'ai pas raconté sur Twitter, mais ils avaient décidé de faire un homme, une femme. De faire la parité, quoi. Donc du coup c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de jeunes avocates aussi qui étaient là, donc voilà, c'est
qui faisaient le parallèle avec leur situation personnelle, en
ouais,
fait, en disant moi comme jeune femme, ouais, je sais ce que ça fait de voir sa route détournée, de perdre sa confiance en soi, etc., quand on a été victime d'agression.
Ouais. ouais, une qui a fait référence au procès de Bobigny aussi, c'était bien de montrer qu'il y a une continuité comme ça.
Gisèle Halimi, ouais, à l'époque sur le droit à l'avortement,
voilà, le procès de Bobigny en 72 qui ouvre le droit à l'avortement, et c'est le procès d'une jeune fille, Marie-Claire, qui est poursuivie pour avoir. Et du coup, c'est bien de faire ce parallèle-là parce que ça montre qu'il y a une continuité, qu'il y a des procès comme ça, il y a des moments où il y a des procès qui s'emparent de faits de société, où la justice est sans doute un peu débordée par ça, mais où si... Alors le jugement est mis en délibéré au 19 avril, on verra ce que ça donne, mais... En tout cas, si ces femmes sont relaxées, si Denis Baupin est condamné pour procédure abusive, sans doute que ça fera de jurisprudence et que ce sera un procès pour le coup historique, quoi, parce que c'est fondamental ce qui se passe là quand même. De dire, parce que moi, ce que j'ai appris après, c'est que en contactant des associations féministes, c'est qu'en fait, ce type de procès, c'est pas du tout un procès exceptionnel. En fait, ça se passe très souvent.
Ouais,
ces procès-là.
Les hommes qui sont accusés d'agression, de harcèlement et de violence attaquent les femmes qui les accusent dans des procès en diffamation.
C'est ça, les procédures Bayon.
C'est ça, c'est des procédures Bayon. Et du coup, si Denis Baupin est condamné, ça ferait une jurisprudence pour ces femmes-là, en fait. Et du coup, ça lèverait quand même
un obstacle à la libération, voilà, et à l'écoute de la
ouais,
parole des
oui,
femmes.
Oui, parce que sans doute que ça les aide pas non plus à parler, le fait de se dire qu'elles vont se prendre un procès.
Ah Avant de se quitter, on tenait à vous dire un mot de l'Humanité, où travaille donc Marie Barbier, notre invitée, un pilier de notre presse française qui ne va pas très bien. Le journal vient d'être placé en liquidation judiciaire et d'aucuns s'inquiètent de sa possible disparition, ou au moins de sa réduction à peau de chagrin. Donc si vous êtes attaché au pluralisme, comme on dit, et au travail de gens talentueux comme Marie Barbier, n'hésitez pas à soutenir le journal. Il y a plein d'initiatives, dont un fonds de soutien à retrouver sur le compte Twitter officiel de l'UMA. Merci à Marie Barbier pour ses réponses, à Victoire Toyon d'avoir animé avec moi cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.